52, le verset 12. Hein? 52, 12. Voilà ce qu'il dit, ce verset. À propos de cette année, hein? Lorsque Dieu il a dit au peuple d'Israël, il lui a dit, préparez-vous et sortez avec hâte, hâte, parce que je vais vous délivrer. Pour cette année-là, le Seigneur, il nous dit la même chose, mais différemment. Voilà ce qu'il dit. Il dit, car vous ne sortirez pas à la hâte, et vous ne marcherez pas en fuyant. Pourquoi? Hein? Car l'Éternel, il marche devant vous, et votre arrière-garde est le Dieu d'Israël. Voilà, aucune crainte pour cette nouvelle année, car l'Éternel, il est devant nous et derrière nous. Hein? N'importe quelle chose, il peut nous arriver, sachant que le Seigneur est là. Et vu le temps qu'il me reste, je ne vais pas vous parler d'une nouvelle année, hein? Je vais vous parler seulement, je vais vous laisser une petite exhortation que nous devons avoir à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Hein? C'est exactement ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et pour cela, nous allons ouvrir dans la première épître à Timothée. Chapitre 2. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Voilà ce qu'il dit Paul à Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà ici deux choses qui nous montrent, Paul nous montre deux choses que nous devons mettre en pratique. Hein? C'est-à-dire, premièrement, la prière pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et deuxièmement, l'évangélisation. Que ces deux choses y soient avant toute chose dans cette nouvelle année. Car le Seigneur nous a promis de revenir bientôt. Que le Seigneur puisse nous trouver à l'œuvre. Que nous ne soyons pas comme ces serviteurs fainéants auxquels le Seigneur il avait donné des talents, comme il a dit les frères, le Saint-Esprit l'a distribué à chacun de nous, des dons, des talents, des moyens, que chacun de nous, au retour du Seigneur, il soit trouvé en train de les mettre en pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler de prier pour les perdus. Qui sont les perdus? Mais ce sont ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. C'est un fardeau que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons cette grâce que Dieu nous a faite. Ce n'est pas une chance. Hein? Beaucoup disent, ah, j'ai la chance de connaître Jésus. Ce n'est pas une chance, c'est une grâce. Et cela, nous devons la partager tout autour de nous. Le Seigneur, il nous a montré l'exemple. Lorsque celui qui avait guéri, il était tellement bien avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, permets-moi de rester avec toi. Il a dit, non, rentre chez toi. Et tu dis à ceux de ta maison ce que le Seigneur a fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, il est prêt à le faire pour les autres aussi. C'est ça notre tâche. Priez pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et chacun de nous, ou au travail, ou dans le voisinage, Partout, on connaît quelqu'un, on est en contact avec quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui l'a perdu. Donc, c'est à nous de leur parler de toutes ces choses-là. Alors, pourquoi prier pour les perdus? Voilà. Premièrement, parce que les perdus, ils sont dans le cœur de Dieu. Ils sont dans le cœur de Dieu. Hein? Dieu se préoccupe de ceux qui ne le connaissent pas. Il nous a dit, nous connaissons Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas une certaine catégorie de personnes, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16. Mais il y a le verset 17 aussi, il faut mettre les deux ensemble. Ne mémorisons pas seulement le verset 16, mais le verset 17. C'est encore plus important, comme on a vu ce matin dans notre étude biblique, que c'est Christ crucifié. Et le verset 17, il dit quoi? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mis ensemble, ces deux versets, ils nous montrent que ce qui a motivé Dieu, c'est l'amour. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que c'est qui m'a attiré à Jésus-Christ, à Dieu? Mais c'est son amour. Pourquoi est-ce qu'un Dieu, comme on chante dans ces cantiques, un Dieu si grand a pu penser à moi? Qu'est-ce que j'étais avant de connaître Dieu, avant de me tourner vers Dieu? Mais j'étais un misérable. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à moi? Parce qu'il m'aime. Et pour cela, il a envoyé Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Que c'est l'amour qui a fait bouger Dieu. Il nous aime tellement. Il nous a dit dans 1 Timothée 2, il nous a dit, « Cela est bon et agréable. » Devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, pas seulement quelques-uns, mais son souhait c'est que tous les hommes, et c'est notre souhait aussi, si Dieu a utilisé la grâce envers moi, il faut faire tout pour qu'il puisse aussi l'amener vers ceux qui encore ne le connaissent pas. Pourquoi prier pour les perdus? Mais c'est, parce que Dieu, il a tout fait par amour. Il a donné son Fils unique. Pour qui? Pour des gens qui ne connaissaient même pas, qui ne méritaient pas. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Alors, il faut tout faire. Dans 2 Pierre 3,9, il nous a dit que Dieu, le Seigneur ne tarde pas. Dieu est patient. Dieu est patient. Et heureusement qu'il est patient, n'est-ce pas? Parce que s'il n'aurait pas été, nous ne serions pas ici. Combien de fois ils nous ont parlé de Jésus-Christ, de Dieu, et nous n'avons pas répondu. Dieu, il aurait pu intervenir en nous jugeant. Non, il est patient. Et il est patient maintenant aussi. On prêche aux gens, leur dire bientôt le Seigneur, il va venir. Il va intervenir dans les affaires du monde. Et ça fait longtemps qu'on dit ça. Depuis 2000 ans. Et dans Pierre, il nous le dit, hein, vous nous dites toujours la même chose depuis 2000 ans que le Seigneur est bien. Il n'est pas venu encore. Mais Pierre, il leur dit, Dieu est patient. Pourquoi il est patient? Parce qu'il veut que tous y soient sauvés. Voilà pourquoi nous devons prier. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il veut quoi, Dieu? Je vous le dis tout de suite ce que Dieu veut. Et ça, on le trouve dans Ézéchiel. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18. L'âme dans laquelle il y a les péchés, il mourra. Il va mourir. Mais il continue. Mais si l'âme qui a péché, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, ne mourra pas. Il ne mourra pas. Et il est marqué au verset 23. Ce que je désire, ce que Dieu désire, hein, Est-ce qu'elle est méchante mère? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change? C'est ça que le Seigneur, il demande. Il change de cœur, que c'est le Seigneur qui change. Mais une fois que ce cœur est changé, nous devons changer de vie. Voilà pourquoi il y a la nouvelle naissance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est exactement la cause pourquoi nous devons prier pour les perdus. Parce que Dieu, il les a dans le cœur. Dieu ne veut que personne ne soit perdu. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Deuxièmement, pourquoi prier pour les perdus? Nous devons prier à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Il a fait quoi, Jésus? Il a donné sa vie pour des êtres qui ne méritaient rien. Et juste à cause de ça, en sachant cela, nous devons prier pour tous ces gens-là. Car c'est quelque chose, il nous a dit, Luc 19, 10, c'est un verset qu'on connaît, hein, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si quelqu'un dit, mais moi je ne suis pas perdu, je ne suis pas pécheur, alors Christ n'est pas venu pour toi. Mais Jésus, il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Parce que pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut dire, je suis perdu. Il faut admettre qu'on est perdu. Et Christ, il a donné la vie pour cela. Et si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous pouvons et nous devons le dire. Oui, je suis pécheur. Tiens, il y a 10 minutes et j'ai menti. Il y a 10 minutes en venant en voiture et j'ai crié contre celui-là qui m'a fait que du poisson avec la voiture. Ça c'est péché, ça. Oui, mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ça et ça. Juste une petite désobéissance. Nous sommes condamnés. Oui, mais juste un petit, c'est un péché mignon. Devant Dieu, il n'y a pas de péché mignon, de gros péchés ou de petits péchés. Hein. Il y a péché. Et Jésus, il est venu pour sauver tous ceux qui sont dans le péché. Voilà pourquoi nous devons prier. Il nous est dit dans Timothée, car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Il est descendu ici-bas et il a donné sa vie à notre place. Ce n'est pas la place à Jésus sur la croix. C'était ma place. C'est votre place. Car lui, il n'a jamais commis les péchés. Mais moi, oui. Vous, oui, vous êtes des pécheurs. Mais Jésus, il est venu sauver. Donc, nous devons prier pour tous ceux qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Hein? Troisièmement, pourquoi prier pour les perdus? Des fois, nous citons très souvent l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Hein? L'apôtre Paul, il avait une seule passion, c'est prêcher la parole, évangéliser, afin qu'il puisse sauver surtout ceux de sa race. Il nous a dit dans Romains, il dit, Romains 9, 2, il dit, « J'éprouve une grande tristesse. » Est-ce que nous avons la tristesse lorsque nous nous trouvons parmi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont perdus. Paul, il l'avait. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pas seulement il est très triste, mais il avait un chagrin continuel. Pourquoi? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Dieu pour mes frères, mes parents selon la chair. Voilà. Il voulait être maudit lui-même pour que ses frères, sa famille, ils puissent connaître le Seigneur. Un peu comme Moïse, il avait ce même souhait, Moïse. Le peuple d'Israël qu'il avait péché, et alors il a dit, Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Il a dit, avec toi, je vais recommencer. Et Dieu, il a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ceux qui pêchent, c'est ceux qui pêchent qui vont être détruits. Mais Moïse, il a intercédé. Et Dieu, qui est amour, Dieu, il désire que tous arrivent à la connaissance. Et Dieu, il les a épargnés. Voilà pourquoi nous devons avoir la passion de Paul. Il était dans la tristesse. Il avait la chagrin continuelle. Il voulait prendre la place de ces gens-là. Maudis-moi, Seigneur, mais sauve ma famille. C'est exactement ce que nous devons faire. Avoir la passion pour les perdus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il regardait Jérusalem, il a pleuré en regardant Jérusalem d'une petite montagne. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te réunir ? Comme une poule réunit ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Le souhait de Dieu, c'est de sauver. Et ça doit être notre passion. Toute circonstance, toute occasion, nous devons annoncer le salut en Jésus-Christ. Parce que nous avons été sauvés pour cela, et pas pour autre chose. Et pas pour autre chose. Dans Romains 10, 1, il continue, « Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est notre souhait dans nos prières, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qu'on connaît. On connaît quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Il faut prier pour cela. Seigneur, sauve Jean-Pierre. Sauve Roland. Sauve Luc, Seigneur. C'est ça. La passion comme Paul. Et aussi, nous devons prier pour les perdus à cause de leur situation. Situation dans laquelle chacun de nous qui avons Jésus-Christ, on s'est trouvé. Quelle était leur situation? Quelle est leur situation? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils vont se trouver, ils sont dans cette situation. Et nous étions, Paul l'a dit, nous étions de leur nombre. Quelle est leur situation? Aveugle. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles, il a aveuglé. Ils ne voient pas, ils sont là, ils ne voient pas le salut de Dieu, ils ne voient pas l'amour de Dieu, ils sont aveuglés, ils sont aussi captifs de Satan. Jésus, il a été clair, il a dit, vous avez pour père les diables. Et qui a les diables pour père? Il n'a pas Dieu pour père. Vous savez, il n'y a pas deux chemins. Il n'y en a qu'un seul pour aller au ciel. Et c'est le chemin que Jésus-Christ il nous a tracé. Ils sont captifs de Satan. Dans 2 Timothée 2, 26, nous devons prier afin que les incroyants, revenus à leur bon sens, ils se tournent vers le Seigneur. C'est ça que le Seigneur il nous demande. Ils sont captifs, ils sont condamnés. Condamnés, pas condamnés ici-bas. On peut mener une vie tranquille ici, sans aller contre la loi. Mais la loi de Dieu, ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont condamnés. Nous sommes condamnés si nous n'avons pas Jésus-Christ. S'ils n'ont pas Jésus-Christ, nous devons prier pour. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés. Et nous le lisons dans Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais c'est lui qui ne croit pas est déjà condamné. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Ils sont condamnés. Ils sont morts. Ils sont morts. On a eu pendant l'étude biblique quelqu'un qui était là, il n'était pas chrétien. Il a dit, comment tu dis que les gens du monde, ils sont morts? Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Non, ils sont morts. Il nous a dit, pour vous, aux Éphésiens, Éphésiens 2, il a dit, pour vous, il écrit à l'Église, hein, il a dit, pour vous, Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses. Et il peut le dire aujourd'hui, à l'Église d'Argenteuil, Pour vous, vous étiez morts. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions morts. En connaissant Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Et aussi, ils sont sous la colère de Dieu. Sous la colère de Dieu. Dans Jean 3, 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pas il demeurera, il demeure sur lui. Ça commence du vivant. Ça commence du vivant. Il nous est dit aussi qu'ils sont sans capacité, c'est-à-dire qu'ils sont impuissants à se tourner vers Dieu. Si Dieu ne lui donne un coup de main, comme on dit. Car il nous est dit dans Jean 6, 44, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'envoie. » C'est le Saint-Esprit qui agit et qui amène la personne, qui lui montre son péché. Il réfléchit la personne et il dit « Oui, c'est vrai ce qu'il y a marqué dans la Bible. » Mais il faut qu'il descende dans le cœur. Il ne faut pas qu'il reste ici dans la tête. Descende dans le cœur. Et alors, il se prend par la foi cette promesse de Dieu que celui qui croit a la vie éternelle. Pas il aura, mais il a la vie éternelle. Hein? Et aussi, il nous est dit, sans espérance. Aucune espérance. Demandez aux gens dehors, quelle est ton espérance? Ah, avoir une belle maison, une belle voiture. Ou autre chose, une belle famille, un bel avenir pour mes enfants et pour moi-même. Ceux qui, s'ils n'ont pas Jésus, ils n'ont aucune espérance. Il nous est dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, étant sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ils n'ont aucune espérance, ceux qui sont perdus. Notre espérance, c'est quoi? Nous attendons le retour de Jésus-Christ. C'est ça l'espérance de l'Église dont le frère il parlait tout à l'heure. C'est ça mon espérance, que Jésus y revienne. La Bible dans Jérémie, il me dit, j'ai de l'avenir pour toi. Est-ce que vous croyez qu'il y a d'avenir tous ceux qui n'ont pas Christ aujourd'hui? Regardez dans quel monde on vit là. Moi, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Pas maintenant, avant que je connaisse Christ. Qu'est-ce que je serai en train de faire? Parce que je ne voyais pas de... J'étais dans un petit village au fond de la Sardaigne, en Italie. Hein? Pas de moyens, pas de voiture et sans rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Pas de travail, tout ça. Mais Dieu, il m'a dit, j'ai de l'avenir pour toi. Il m'a envoyé en France, et en France, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de Jésus-Christ. Parce qu'il faisait son travail, il savait que j'étais perdu sans Christ. Mais maintenant que je suis chrétien, j'ai de l'avenir. J'ai l'espérance. Voilà pourquoi. Et aussi, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont sans compréhension. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des perdus. Il faut l'intervention de Dieu pour cela. Hein? Toutes ces choses-là, pris dans leur ensemble, tous ces versets, ils nous montrent combien la situation des perdus est catastrophique par rapport à la nôtre. Alors voilà pourquoi nous devons prier. C'est des gens qui sont morts et ils pensent d'être vivants. Dans Apocalypse, lorsqu'il parle à des églises, les seigneurs, il nous le dit, hein, vous êtes mort, quoique vivant. Tu crois être vivant, achète-moi. Viens vers moi, car sinon tu es mort. C'est ça l'exhortation que le Seigneur il a donnée. Et c'est l'exhortation que nous devons avoir, chacun de nous. Que faut-il faire? Il faut prier. Pour que le Seigneur il ouvre leurs yeux. Vous en souvenez de Gehazi, là, le serviteur d'Élisée, non, d'Élie, ou Élisée, je ne m'en souviens plus. D'Élie, voilà. Ah, ils étaient sur une montagne, il y avait les ennemis qui les entouraient. Alors Élie, il était avec son serviteur. Et il a dit à mon Seigneur, regarde tous ces gens autour de nous, nous sommes perdus. Et dans 2 Rois 6, 17, pour ceux qui prennent note, ils peuvent le mettre, c'est marqué, Élie, il a prié au Seigneur, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de mon serviteur. Il a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il y avait autour de cette montagne? Il y avait des anges partout. Les anges, ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est ça. Aucune crainte. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Mais personne. Et ces gens qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont séparés. Et nous devons faire tout pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est ça le souhait que je me reconnaisse pour cette année 2019. Hein? Alors, prier pour les élus, oui, mais comment prier pour les perdus? Voilà. Comment prier pour les perdus? Premièrement, il faut que les chrétiens, ils parlent aux perdus. Parler, c'est ça. Parler, évangéliser, hein? Qu'il parle aux perdus. Il faut prier, pourquoi? Pour qu'il y ait des ouvriers. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jésus, il nous l'a dit dans Marc 9, Matthieu 9, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour faire quoi? Pour que les chrétiens, pour les ouvriers, ils puissent parler, témoigner. Pourquoi est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de Jésus. Quelqu'un a parlé et c'était un serviteur qui a parlé. Il faut comment prier? Qu'il y ait des serviteurs. Esaïe a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Et à cette époque-là, hein, ils ne marchaient pas avec de belles chaussures. Hein. Si vous regardiez les pieds de ces gens-là qui marchaient, ils n'étaient pas tellement propres. Hein. Et pourtant, il a dit, mais qu'ils sont beaux. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la parole. Parce qu'ils annonçaient la parole. Hein. Priez Dieu aussi pour qu'il y ait un réveil dans le cœur de tous ces gens-là. Que le Seigneur puisse leur montrer qu'il y ait un espoir pour eux. Ils ont juste à se tourner. Il faut aussi prier pour de l'hardiesse, du courage. Pourquoi? Parce que des fois, il y a beaucoup de chrétiens, ils disent, ah, je ne sais pas parler, je suis timide. Paul, il a dit, Éphésiens 6, priez pour moi, et pourtant c'était Paul, hein, mais il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Pas seulement être de chrétien, mais avoir de l'hardiesse, de le confesser. Jésus, il a dit, c'est lui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Nous sommes là pour parler. Et le Seigneur nous a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Parle et ne te tais point. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est ça. Hein? Il faut prier aussi pour des occasions. Que les serviteurs de Dieu, ils aient des occasions. Colossiens 4, 3, il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Parfois, il nous semble difficile. Le matin, avant de se lever, il faut prier, Seigneur, montre-moi où je dois aller. Montre-moi avec qui je dois parler. Montre-moi les occasions. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il y avait une réunion de mariage. Ah, vous savez, réunion de mariage, on raconte toujours des blagues, que tout le monde puisse rire. Il y avait un qui n'en connaissait pas. Non, c'est-à-dire qu'il n'en connaissait une seule. Et alors, à un certain moment, pendant qu'il se faisait un peu silence, il a donné un gros coup à la table. Il a dit un coup de fusil. Je vous raconte l'histoire d'un chasseur. Voilà. Une occasion. Mais il a donné un coup sur la table. Un coup de fusil. Je vous raconte l'histoire du chasseur. Prendre les occasions. Lorsqu'on a l'occasion, parlons de Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et il faut prier aussi, hein, pour qu'il soit fait clairement et véridiquement. Pas utiliser des choses qu'on a entendues par un homme, mais il faut utiliser les choses qu'on a lues dans la parole. Car la parole est la vérité. Tandis qu'un homme, il est menteur. Moi, je suis menteur. Tout ce que je vous ai dit, ils ne viennent pas de moi, c'est de la Bible. Il dit, alors, il est menteur. Oui, mais ce que je viens vous dire, ça vient de la Bible. Je ne vous raconte pas des choses que j'ai entendues ailleurs. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ça, c'est pour que les chrétiens, ils parlent aux perdus. Comment prier? Deuxièmement, pour que les perdus, ils écoutent. Parce que pas seulement que les chrétiens, ils parlent, mais que les perdus, ils écoutent. C'est comme ça qu'il faut prier, afin qu'ils aient un cœur réceptif. Parce que c'est une chose d'évangéliser, de parler, mais si l'autre ne réagit pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est là, pour les convaincre des péchés. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que Dieu, il est capable d'incliner tous les cœurs. Car c'est lui qui cherche. C'est lui qui amène les gens au pied de la croix. C'est lui qui nous fait ressentir notre état de péché. Hein? Et encore une fois, il faut prier pour que leurs yeux s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Paul, une fois qu'il a vu le Seigneur, il a eu des écailles sur ses yeux. Il y a eu Ananias qui est arrivé, il a prié avec lui, et tout est tombé, et il a vu clairement. C'est seulement lorsque la parole nous est prêchée que nous pouvons voir clairement. Elle est perdue, c'est impérial que nous devons prier pour les perdus. Juste les mots perdus, ils sont perdus. Hein? Et si, comme il nous est dit dans Romains, mais Dieu a déversé son amour dans nos cœurs, si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, juste savoir que quelqu'un il n'a pas Jésus-Christ dans le cœur et qu'il est perdu, nous devons nous faire du souci pour lui. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Hein? Le Saint-Esprit, il est là. C'est pour ça. Et il faut prier pour que leur ville soit transformée par l'Évangile. Comme c'est passé dans notre propre vie. Ne dites pas, je suis chrétien et vous continuez à vivre comme auparavant. Ah, il ne faut pas le dire ça. Car si on est chrétien, on est né de nouveau. Notre vie, il doit changer. C'est ce qu'on faisait auparavant. C'est terminé. Si nous continuons à vivre comme auparavant, ce n'est pas la peine. Il y avait Billy Graham, c'était un grand serviteur de Dieu. Il a prêché l'Évangile. Il y en a qui ont été sauvés. Et dans ces réunions, il y avait quelque chose qui disait que ce n'était pas selon la parole de Dieu. Il y avait tout le monde, il allait l'écouter, et catholiques, et protestants, et musulmans, et tout ça. Et il s'est donné au Seigneur. Et il leur disait, rentrez chez vous. Vous, catholiques, rentrez dans les églises, continuez à dire... Non, non, il faut les faire sortir. Pourquoi? Parce que la vie, lorsqu'on a Jésus, elle a changé. Les choses anciennes sont passées. On faisait des choses avant, que maintenant qu'on a Jésus-Christ, nous ne devons plus faire, plus faire. Voilà pourquoi il faut prier pour les perdus. Vous savez, Dieu, il a les plus grands problèmes de Dieu. C'est quoi? Ce n'est pas les perdus. Les plus grands problèmes de Dieu, c'est les sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils se taisent. Nous ne faisons pas notre travail. Nous ne le faisons pas. Nous nous contentons de notre petite vie de chrétien. Voilà, je suis chrétien, je suis sauvé. Voilà, je vis ma petite vie, les autres. C'est ça que le Seigneur il nous demande. Hein? Nous ne prions pas assez pour les perdus. Quelle est la dernière fois que vous avez prié pour un perdu? Est-ce qu'on verse des larmes pour ceux qui sont perdus? C'est ça que le Seigneur nous demande. Et en cette nouvelle année, c'est exactement ce que le Seigneur nous demande de faire, de prier, d'évangéliser, de prier pour les perdus. Il y a une sœur ici que chaque fois qu'elle prie, elle dit, « Je t'ai prié pour les perdus, Seigneur. » il le fait chaque fois qu'il prie. C'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. En sortant d'ici, on doit déjà penser, qui c'est que je vais rencontrer? Et je dois lui parler de Jésus-Christ. Prier pour les perdus. Sachant que nos prières ne sont pas vaines. Le Seigneur, il va intervenir. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire. Que c'est véridique. Hein? Ça se passe il y a 1600 ans. Hein? Donc, vous voyez, ça fait... Ça fait longtemps. Hein. Il y avait, c'est une femme chrétienne qui s'appelait Monica. Monica. Et alors, cette femme, elle a été mariée à un païen. Mais elle, il a eu trois enfants. Elle leur a inculqué la religion chrétienne, n'est-ce pas? Il y en a deux qui se sont donnés au Jésus-Christ. Et le troisième, non. Il a vécu une vie de débauche. Il s'est marié, il a eu un enfant. Et cette femme, Monica, elle pleurait constamment. Pendant 17 ans, elle a prié, elle a versé des larmes. Un jour, il a été voir un pasteur, il a dit, mais comment ça se fait que ça fait 17 ans que j'ai prié avec des larmes? Et mon fils, il est toujours... parmi les perdus, comment se fait-il? Et ce pasteur, il a dit, ce n'est pas possible qu'une femme qui prie avec tant de larmes ne soit pas exaucée. Elle a continué à prier jusqu'au jour où son fils, il a ouvert le cœur à Jésus-Christ. Et ce fils-là, c'était Augustin. Augustin. Un grand docteur de l'Église. Il a été amené au Seigneur par les larmes de sa mère. Quelle est la dernière fois que vous avez prié pour votre fils, votre fille, qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que vous vous limitez seulement à leur donner des instructions de ne pas vivre comme le monde? Mais est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'il le fait? Est-ce que vous avez versé des larmes pour votre famille? C'est ça que le Seigneur nous demande pour cette année, de prier pour ceux qui encore ne connaissent pas le Seigneur, d'évangéliser et que le Seigneur puisse nous trouver à l'œuvre. Voilà le souhait que je me suis fait pour moi-même et le souhait que j'espère que chacun de vous il puisse prendre au plus profond de lui-même. Il dit, je suis sauvé et je vais participer à l'avancement du royaume de Dieu. Car heureux, c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.